Merci de répondre à cette invitation d'Internews. Internews qui nous invite pour ce magazine, cette émission spéciale consacrée à la Journée internationale des droits de l'homme. La République démocratique du Congo est à présent membre du Conseil des droits de l'homme au niveau des Nations Unies. Donc les pays participent aux côtés des 47 autres États comme étant cet État privilégié de clubs ou des gardiens de renforcement et de la promotion et de la protection des valeurs fondamentales des peuples au niveau du monde. Ça sera un débat. L'enjeu, c'est d'évaluer les résultats du travail ou les efforts menés par la République démocratique du Congo au courant de cette année, donc de janvier au mois de décembre. Mais ça sera une tâche à la fois difficile et à la fois complexe, mais nous allons nous y atteler. Et autour de moi, vous allez remarquer, nous avons les présidents de la CAJ, Association congolaise pour l'accès à la justice, et il y a également Madame Sandra Yoka, qui est la directrice des droits humains de l'ONG Solidarité pour les meilleurs. Il y a également le représentant du ministre des droits humains, Monsieur Esaïe Kabuiti, pour ce forum d'expression. Ce forum, je vous rappelle, est financé par la coopération suisse et avec un appui en supplément d'aide de l'USAID. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Madame Sandra Yoka, qui est la directrice des droits humains de l'ONG Solidarité pour un monde meilleur.
Merci pour la parole. Alors, il m'a été demandé de faire un état des lieux sur le droit éducatif de notre pays. Pour ce qui est du droit éducatif, je dirais que la situation, elle est sombre, oui, mais elle n'est pas vraiment sombre. Parce que par rapport aux textes, la RDC est munie des textes légaux. Déjà, notre constitution, à son article 43, garantit le droit à l'éducation. À part la constitution de notre pays, il y a des textes auxquels notre pays a adhéré. Donc, du côté texte, il n'y a pas de problème. Les problèmes se situent dans la réalisation des engagements du gouvernement. Vous n'êtes pas sans ignorer que on a eu les OMD qui devraient être évalués en 2015 et l'évaluation a été telle que on n'a pas pu atteindre les OMD et surtout en rapport avec le secteur de l'éducation. Cela n'a pas été atteint. Et actuellement, nous sommes aux ODD, aux Objectifs de Développement Durable, qui devraient être évalués en 2030. Et la RDC y a adhéré. Et au moment où je vous parle, au mois d'octobre de l'année passée, la RDC a procédé à la contextualisation des ODD, c'est-à-dire des 17 ODD, parce qu'il y en a 17. Et l'ODD 4, c'est l'ODD qui concerne au fait l'éducation. Et la RDC a contextualisé cela. Et à mon avis, je pense que le défi majeur auquel le gouvernement est buté pour réaliser ces ODD-là, c'est le financement au fait de l'éducation. Parce que l'éducation mérite d'être financée. Parce que même les ODD... les ODD veulent que les pays puissent financer l'éducation à 20%, c'est-à-dire on a 100% du budget global de l'État, mais sur le 100%, il faudrait que l'éducation soit financée à 20%. À l'ère actuelle, concernant par exemple le budget de 2018, qui est le projet de loi de finances 2018, qui prévoit que 15% pour l'éducation. Et on s'est dit que les 15% probablement ne vont pas suffire pour financer l'éducation. Parce qu'il faut se dire le 15% de quoi au fait? Parce que le budget global déjà c'est un budget qui est dérisoire et on pense que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de financer en 2018, de bien financer l'éducation, d'autant plus qu'il y a beaucoup de paramètres. Par exemple, si on prend le problème de gratuité, auquel la RDC aussi a souscrit. Donc on ne peut pas financer la gratuité en 2018. Ça sera vraiment impossible parce que jusqu'à présent, il y a 73% dont les ménages financent à 73% l'éducation. Et l'État n'a que 23% de financement de l'éducation. C'est vraiment trop bas pour l'État. Donc on pense que en 2018, c'est impossible. Et déjà en 2017, l'État n'a financé qu'à 10% l'éducation. C'est vrai qu'il y a des avancées. C'est la faisabilité qui pose problème. Je pense que s'il y a un peu de volonté, l'État pourra financer l'éducation. Parce que sachez que si vous voulez tuer un pays, il faut commencer par tuer l'éducation. Si vraiment vous voulez réussir dans un pays, il faut commencer par financer l'éducation.
Merci. Merci, Madame Sandra Yoka. Je rappelle, elle est la directrice des droits humains de l'ONG Solidarité pour un monde meilleur. Nous allons à présent passer la parole au président de la CAJ, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, Maître Georges Kapiamba.
Je vous remercie, Madame. J'ai beaucoup réfléchi lorsque j'ai lu le thème. Je me suis dit, mais il ne sera pas facile de passer en revue toutes les mesures prises pour pouvoir donner effet, c'est-à-dire mettre en application la Déclaration universelle des droits de l'homme. Lorsque vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle énonce plusieurs droits, mais qui sont repris de manière générale. Vous avez là-dedans des droits civils et politiques qui sont énoncés, des droits économiques, sociaux et culturels, mais aussi il y a les droits à l'environnement sain. Donc c'est par après qu'il a été considéré qu'il fallait scinder ces droits. Alors quel est le niveau de l'application par la République démocratique du Congo? L'application, il faut l'entendre à deux niveaux. Le premier niveau, c'était d'abord la mise en œuvre de la déclaration elle-même à travers certaines mesures législatives. Quand vous prenez l'article 12 de notre Constitution, où il est dit que tous les Congolais sont égaux devant en droit et en obligation, vous allez retrouver la même disposition dans la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'article 7. Donc il y en a beaucoup, même les droits à la vie, toutes ces dispositions ont été importées de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc c'est déjà un premier niveau de l'application, si je peux utiliser votre propre expression, mais de la mise en œuvre au niveau national. Le deuxième niveau qui est important, qui nous préoccupe, nous, les activistes de la société civile, les défenseurs des droits de l'homme, c'est maintenant la protection concrète de ces droits par le fait de la jouissance et l'exercice effectif de libertés fondamentales. À ce niveau-là, il y a énormément de problèmes. Parce que, comme je l'ai dit, la RDC, sur le plan des textes, Madame l'a mentionné, a suffisamment évolué. Nous avons fourni beaucoup d'efforts. Et au niveau maintenant de la mise en œuvre effective, là, il y a un problème parce qu'on ne permet, on ne peut pas se contenter d'avoir des droits proclamés sur les textes lorsque ces droits ne sont pas effectivement exercés ou que les gens ne savent pas en jouir. C'est comme ça que, prenant toujours l'exemple de Madame du droit à l'éducation, il y a un élément peut-être qu'elle n'a pas mentionné. Vous savez que notre Constitution prévoit que l'enseignement maternel et primaire jusqu'au niveau secondaire devrait être gratuit, cet enseignement. Mais il se fait que jusqu'à ce jour, la plupart des parents d'élèves dans notre pays sont contraints à consentir beaucoup de sacrifices, contribuer même à l'éducation de leurs enfants, ce qui est inacceptable. Donc sur ces points-là, nous pouvons considérer que c'est un des droits qui n'est pas effectivement mis en œuvre ou bien appliqué. Il y a plusieurs questions qui nous font douter aujourd'hui de la volonté réelle de ceux qui sont appelés à donner effet, à faciliter la mise en œuvre des droits qui sont proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme. La première chose, c'est que lorsque vous lisez le préambule de la déclaration, il est dit que seul un régime de droit peut être capable de permettre aux citoyens de faire ou d'obtenir la jouissance de leurs droits. Ça veut dire que lorsque nous ne sommes pas organisés dans un état de droit, il est difficile aux citoyens de pouvoir jouir de leurs droits. Mais pour qu'on soit dans un régime d'état de droit, il faut d'abord qu'il y ait un gouvernement représentatif. Ça suppose que les élections sont organisées régulièrement, périodiquement, suivant les dates qui sont prévues par les lois de la République, pour que ceux qui se mettent aux commandes de la République soient des personnes qui obtiennent les mandats de, ou la légitimité des citoyens. Vous n'avez vous-même qu'à à regarder la situation de notre pays. C'est depuis 2016 qu'on aurait dû organiser notamment l'élection des nouveaux présidents, mais aujourd'hui nous sommes presque à une année sans que nous ayons un nouveau président conformément à notre constitution. Il en est de même aussi pour le Parlement, dont les députés, les sénateurs sont déjà au-delà de leur mandat, mais ils continuent toujours à prendre des lois qui sont imposées aux citoyens. Donc ça viole la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce qu'à ce moment-là, nous ne sommes plus conduits ou gérés, gouvernés par un gouvernement représentatif. Un gouvernement n'est représentatif que lorsque il résulte du mandat électif. Il y a la question, par exemple, de la justice qui doit être indépendante. Pour que le système soit réellement un système de droit, il faudrait que la justice, les cours et tribunaux soient réellement indépendants. Vous n'avez qu'à regarder autour de nous, suivre ce qui se passe dans nos cours et tribunaux pour vous rendre compte qu'il est difficile aujourd'hui d'ailleurs aux pauvres de pouvoir accéder à la justice. Parce qu'accéder à la justice ne suppose pas tout simplement de se transporter à aller au palais de justice. Mais faudra-t-il aussi que quand les citoyens, ceux qui n'ont pas de moyens, y arrivent, qu'ils soient pris en charge et qu'ils ne soient pas butés à des obstacles tels que paiement des frais qui sont énormes aujourd'hui parce que les agents qui sont engagés pour la justice ne sont pas suffisamment payés. Vous n'avez qu'à regarder comment, dans quelles conditions travaillent les greffiers, les huissiers. Ils ont à peine un petit local comme ça, 5-10, pour se partager. Il faut même des tours pour s'asseoir sur des chaises, même au niveau de la Cour suprême de justice. Les magistrats, même les plus hauts magistrats de la Cour suprême, la même chose. Ils sont mal payés. Donc, c'est un des facteurs qui contribue aujourd'hui à la mauvaise gouvernance de la justice. Un autre élément qui doit nous permettre de nous assurer que la Déclaration universelle des droits de l'homme est appliquée, c'est notamment l'existence d'une presse libre. Ça veut dire que ça doit être une presse qui ne subit pas de temps en temps des coups, des attaques. Ou lorsqu'il y a ce genre d'attaques, mais la justice qui doit être, comme les articles 149, 150 de la Constitution le prévoient, elles doivent avoir au secours la justice. Les personnes qui s'attaquent à la justice, aux journalistes, aux médias, aux reporters, aux caméramens, ceux qui se permettent lors de l'organisation des manifestations d'arracher les matériels des journalistes, ceux qui se permettent d'utiliser des personnes, ce qu'on appelle des détenus irréguliers, pour s'attaquer aux journalistes, assassiner même des journalistes, ces gens aussi longtemps qu'ils ne seront pas poursuivis, condamnés en justice, cela va faire établir le fait que les gouvernements ou les autorités tolèrent ces faits et encourage les atteintes contre la justice. Enfin, il y a la société civile qui doit être organisée, professionnelle et agissante. Ça suppose que l'État, le gouvernement, tolère la liberté d'association et la liberté d'expression. Parce que si les gens se regroupent dans une association et qu'ils n'ont pas la possibilité de porter sur la place publique les critiques qu'ils ont, qu'ils formulent contre la gestion de leur société, ça veut dire que ces gens sont appelés à disparaître. Donc voilà, au vu de l'analyse que nous avons faite, à ce jour, 70 ans après, nous constatons que la RDC a fait effectivement un pas sur le plan de la prise, l'élaboration des textes pour la mise en œuvre, mais sur le plan de l'exercice effectif des droits et libertés fondamentaux des citoyens, nous sommes encore très loin de satisfaire aux standards internationaux.
Merci, maître Georges Kapiamba. Avant de continuer, nous allons suivre les avis de quelques Congolais sur l'appréciation de la situation des droits de l'homme ici dans notre pays.
Les droits de l'homme sont des droits inhérents à la nature humaine, sans lesquels la vie est impossible, tels que le droit d'aller et de venir.
le droit de l'homme n'est pas respecté ici en République démocratique du Congo. Vu qu'il n'y a pas de liberté d'expression, nous bafouons certains articles de la Constitution.
Nous avons plusieurs dispositions dans la Constitution de la République démocratique du Congo qui reprennent pratiquement tous les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça veut dire que, du point de vue des textes, nous avons beaucoup avancé. Maintenant, de manière pratique, qu'est-ce qui se passe ? De manière pratique, nous avons un problème, c'est que les droits de l'homme ne sont pas suffisamment vulgarisés et que nous avons comme l'impression que, c'est du leurre, ce n'est pas un problème de Congolais, c'est un problème d'une certaine classe de gens. Les ONG ont beaucoup à faire. On ne peut prétendre aux droits que si on les connaît et on sait les défendre. C'est le problème de tout citoyen. Il faut connaître ses droits. Il faut les réclamer, il faut les défendre. Ce n'est pas que la population n'en veut pas. Mais il y a de la résistance de la part des dirigeants. C'est eux qui résistent contre la demande de la population. Vous voyez, chaque jour, on parle de manifestations publiques, des libertés d'exercer ces droits de l'homme là-bas, qui sont régulièrement réprimés.
Le rôle que joue le droit humain dans notre pays, c'est de répertorier les cas de violation de droits de l'homme pour que les auteurs soient poursuivis et punis.
Oui, les bénéfices sont là, des droits humains. Même quand on tue les Congolais en désordre comme ça, il n'y a que les défenseurs des droits humains qui essayent un peu de dénoncer cela et essayent un peu d'interpeller les auteurs.
Merci au conseiller de la ministre des Droits humains, Monsieur Esaïe Kabuiti, qui nous rejoint dans cette salle. Vous représentez le gouvernement de la République démocratique du Congo, surtout en matière des droits humains. Qu'en est-il exactement? Quelles sont les mesures? Quels sont les efforts que le gouvernement fournit, surtout que le gouvernement a fourni de janvier jusqu'à aujourd'hui en rapport avec les droits de l'homme?
Merci beaucoup. Les droits de l'homme, comme vous savez, c'est une matière qui est assez difficile pour les uns et pour les autres. Et je crois que lorsqu'on va essayer d'échanger, on pourra peut-être voir quelles sont les difficultés qui sont les nôtres et celles des autres, notamment les défenseurs des droits de l'homme. Parce que demain, c'est la journée des défenseurs des droits de l'homme. Je m'en vais, si vous permettez, lire les mots qui m'ont été confiés à cette occasion. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est pour moi un honneur et un privilège de prendre la parole en ces lieux au nom de Madame Marie-Ange Moshobekwa, ministre des Droits humains, qui a la charge de conduire ce prestigieux département depuis bientôt une année. Il a notamment pour attribution, la promotion et la protection des droits humains, les libertés fondamentales et des citoyens, la défense des intérêts de la République démocratique du Congo auprès des instances régionales, internationales des droits de l'homme, ainsi qu'assurer le monitoring du respect des droits de l'homme dans les milieux carcéraux. Vous conviendrez avec moi qu'au regard de ce qui précède, le secteur des droits humains a un caractère transversal qui touche les différentes facettes de la vie nationale. Il y a lieu donc d'affirmer que le ministère des droits humains joue un rôle de premier plan dans le développement intégral de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi l'avènement de Son Excellence Madame Marie-Ange Moshobekwa à la tête de ce ministère est une preuve de l'engagement du président de la République à prendre à bras le corps la question des droits de l'homme. C'est ainsi que plusieurs mesures ont été prises dans le seul but de renforcer la lutte contre les violations des droits de l'homme sous toutes ses formes, ainsi répondre positivement aux obligations qu'a l'État congolais face à sa population et ses différents partenaires du secteur. Le procès de Mwanza Lomba dans le Kasaï oriental, qui a mis en cause certains éléments de FARDC, ces derniers ont été poursuivis et condamnés du chef des exécutions sommaires commises sur les populations civiles. En date du 23 juin 2017, la résolution 3335 a été adoptée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Son Excellence a plaidé et obtenu à travers cette résolution que les Nations Unies envoient une équipe d'enquête internationale en appui à la justice congolaise pour faire la lumière sur les atrocités du Kasaï. À l'issue de ces enquêtes, les conclusions seront déposées au dossier ouvert par la justice congolaise et donc les présumés coupables seront poursuivis et jugés par les juridictions congolaises. À la même occasion, le ministre des Droits humains, en collaboration avec les ministres de l'Intérieur et Sécurité, Justice et Garde des Sceaux, a procédé à la rédaction du tome 1 du livre blanc intitulé « Éléments d'information liés au phénomène Kamuinasap ». Ceci dans les soucis d'éclairer l'opinion, tant nationale qu'internationale, sur la vérité de faits liés à ces phénomènes. Les activités du monitoring organisées à travers les différentes prisons de la République et autres lieux de détention en vue de vérifier les conditions carcérales ainsi que la régularité de détention. C'est le cas notamment des visites qui ont été organisées à la prison de Makala en février et en juin, ainsi qu'à Kananga en juin aussi. Le ministère des Droits humains a soutenu l'adoption par le Sénat de la proposition de loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. Poursuivant ses efforts dans la lutte contre les violations des droits de l'homme, la République démocratique du Congo, à travers le ministère des Droits humains, a présenté sa candidature au Conseil des droits de l'homme, où elle a été élue avec brio. À partir du 1er janvier 2018, la République démocratique du Congo va siéger au Conseil des droits de l'homme pour un mandat de 2 ans, soit de 2018 à 2020. Il s'y est de rappeler que tout citoyen congolais a le devoir, a le droit, mais aussi le devoir, de remplir vis-à-vis de ses concitoyens ainsi que de l'État. Pour ce faire, un vademécum, traduit dans les 4 langues nationales, a été conçu pour sensibiliser la population sur le droit et devoir. Comme vous pouvez constater, c'est juste quelques points ramassés, ci et là. Vous vous rendez compte que le ministère des droits humains fait plus que ça dans ce qui est de ses attributions. Comme j'ai dit, j'en ai déjà eu peut-être à se voir avec le président, le maître Kapiamba, à notre bureau, où on est revenu sur certaines difficultés qui sont du côté du ministère des Droits humains. Le ministère des Droits humains est un ministère transversal, comme ça a été dit, et cette transversalité est en même temps un atout et en même temps une difficulté. Mais néanmoins, notre ministère est prêt à assumer ses responsabilités dans les mesures du possible. Je vous remercie.
Merci, conseiller du ministre des Droits humains, Esaïe Kabuiti. Nous allons à présent ouvrir les débats. N'hésitez pas à vous présenter. En face de vous, je rappelle, vous êtes en face des journalistes et des acteurs des défenses des droits de l'homme.
C'est M. Henri Christel Ongenja. Je suis du CODO, le cas d'espèce. Je suis invité en tant que collectif 24. Ma question, je m'adresse directement au conseiller. On a l'impression que le conseiller a donné un bilan vraiment très doré de la situation de droits humains au pays, alors que quand on sait que les libertés fondamentales posent problème, notamment la liberté d'expression, la liberté d'accès à l'information, qu'est-ce qu'il pense par rapport à cette situation? Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est par rapport au projet ou la loi sur les défenseurs des droits humains, comme il dit qu'il a essayé un peu, le gouvernement a très aussi de pousser. Mais que pensez-vous de la loi que nous commençons à appeler la loi Tambwe Mwamba, qui vient vraiment museler la liberté d'association dans notre pays? Quelle est la position du ministère des Droits humains, quand bien même on sait qu'il y a la cohésion gouvernementale, mais c'est une loi quand même qui pose problème aujourd'hui?
C'est Madame Grace Ngike de la Référence Plus. Ma première question s'adresse à Madame Sandra Yoka. Vous avez parlé de quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Pour détruire un pays, il faut commencer d'abord par détruire l'enseignement. Pourquoi votre ONG ne va pas vers les députés nationaux après le dépôt du budget à l'Assemblée nationale? Et est-ce qu'avant le dépôt du budget à l'Assemblée nationale, n'est-il pas possible de rencontrer le Premier ministre Parce que quand on discute déjà du budget à l'Assemblée nationale, il y a une partition pour l'enseignement. Quel budget on accorde au niveau de l'enseignement? Aux représentants de la ministre, pourquoi vous ne vulgarisez pas la Constitution dans une petite brochure, dans quatre langues nationales, et à donner à la population?
C'est Jean-Michel Mvondo. Je suis le secrétaire exécutif du réseau d'éducation civique au Congo. Première question s'adresse aux représentants de ministres. Vous avez fait une petite intervention, Bila. Êtes-vous satisfait aujourd'hui par rapport aux attributions de votre ministère? J'ai cité la promotion et la protection des droits. Et là, je prends un aspect particulier, les droits de manifestation publique. Êtes-vous satisfait qu'effectivement, vous protégez cette population? La deuxième question, en fait, c'est une suggestion. Maître Georges, confrère, vous avez essayé un peu de brosser la situation, mais c'est comme si vous avez été très clément et trop dur en même temps. Trop dur parce que vous n'avez pas fait allusion aujourd'hui, ne serait-ce qu'au débat, l'espace médiatique qui est légèrement libéré, où les gens peuvent passer à la télévision pour dire, citer le président de la République et tout ce qu'il fait, contrairement à d'autres. Mais Clément, c'est comme si vous avez essayé de présenter la situation par rapport à l'évaluation de la situation des droits de l'homme comme le vernis dans les ongles d'une jeune femme. Il suffit de gratter pour découvrir la vraie couleur. Moi, je pensais qu'il fallait vraiment brosser la situation et présenter la situation telle qu'elle est avec des exemples concrets.
Merci. Je m'appelle Dolly Ibefo. Je suis de la Voix des Sans Voix. J'ai suivi l'intervention du conseiller que le ministère des Droits Humains, c'est un ministère transversal. La loi Tambo Mwamba, c'est une loi qui a, quand vous la lisez, à la fin, vous sentez, c'est quelqu'un qui était fâché ou qui a eu une chicotte quelque part et qu'il fallait rédiger. Mais le ministère des Droits Humains a pris connaissance de cette loi. Comment le ministère pouvait laisser, surtout que la RDC est membre du Conseil des Droits de l'Homme? Madame Sandra a été très clémente avec l'État congolais par rapport à l'éducation. L'État contribue, je dirais, moi je suis mathématicien, à 5% dans l'enseignement, dans l'éducation de nos enfants. Mais quand vous dites, vous évaluez à 23 que l'État supporte, je ne sais pas, vous avez calculé sur quelle base. Vous allez dans l'enseignement, vous allez trouver... Il y a des lois, je prends l'école au niveau de l'université, j'ai été saisi des parents, des étudiants qui sont exclus aujourd'hui, le ministère n'en parle pas, qui sont radiés parce qu'ils ont participé dans une manifestation politique. Alors, il y a aussi la délibération des étudiants. J'ai reçu des étudiants où les autorités académiques ont refusé de traiter le recours des enseignants, disons des étudiants. Alors que moi, je suis enseignant, je sais qu'il y a des erreurs matérielles qui viennent quand on délibère le cas. Vous n'en avez pas fait allusion.
Moi, c'est Palmer Kabeya du Filimbi. Monsieur le conseiller, je ne voudrais pas faire la compilation de tout ce qui se passe dans notre pays. Je pose la question à vous. Maintenant là, on peut dire que notre pays est un pays de droits ou notre pays a déjà basculé à une dictature.
Désiré Kazadi, directeur de Freedom for Journalists, j'ai une question que je destine au conseiller du ministre, ou de madame le ministre. Mais je voudrais d'abord préciser là, il y a notre ami qui a dit que le secteur de médias est favorable au Congo. J'ai dit non. Il a dit, je crois que nous documentons tous ces cas là, tous les jours ici. Je tiens à lui dire que ce que Maître a dit est réel. Donc, je vous apprends qu'il y a un journaliste qui venait d'être cueilli comme une mangue mûre là et amené à la police. Daniel Saf, que vous connaissez, qui a été finalement libéré après que nous ayons fait beaucoup de bruit. Donc, le tableau que lui a n'est pas bon. Je pose la question au conseiller de Madame le ministre. Il nous a présenté un tableau qui l'a peint comme reluisant alors qu'il ne l'est pas. Je voudrais lui poser la question parce que la liberté de la presse est aussi un droit fondamental. J'aimerais savoir si le ministère des droits humains ou lui-même a été au courant qu'une radio a été incendiée dans le Maniema hier. Et lorsque, pour peut-être aussi donner un exemple, mais ici il suffit seulement que vous puissiez émettre une critique négative sur la personne chef de l'État, le lendemain on vous arrête. Donc ça veut dire que l'environnement n'est pas favorable à l'exercice de la liberté de la presse dans notre pays. Voilà.
Voilà. On va accorder à présent la parole à nos panélistes. Messieurs les conseillers, vous avez vraiment la grande partie du gâteau. C'est parce que tous les jours, on ne vous a pas. Hein, et c'est difficile de vous avoir d'ailleurs.
Oui, c'est normal que le ministère des droits humains ait beaucoup de questions. Parce que comme vous savez, l'État, et on est redevable de l'État de certaines obligations. Et donc, aujourd'hui, l'État vous doit tout ce que vous êtes en train de dire. C'est normal qu'il y ait beaucoup de questions. Je vais essayer d'y accorder les réponses que je peux. La première question, c'est M. Henri du collectif 24. Il pose le droit d'accès à l'information. Et là, il dit que le bilan que nous venons de faire est un bilan en or. Il est doré. Il n'est pas vrai. En d'autres termes, je ne pense pas que vous ayez totalement raison. Il y a des choses, de bonnes choses qui ont été faites, et il y a des choses qui devraient être améliorées. Vous ne pouvez pas jeter tout, comme on dit, l'enfant et l'eau du bain. Non. Et ça, ce ne serait pas honnête de votre part. Ce qui vous a été présenté, c'est par rapport aux missions ou aux attributions du ministère des droits humains. Par exemple, lorsque le ministère des droits humains a été défendre un rapport dans lequel on fait mention des efforts de différentes ONG des droits de l'homme, parce que ce n'est pas le ministère des droits humains qui défend au quotidien. Le ministère des droits humains travaille à travers vous les ONG. Lorsqu'une ONG a diffusé telle information, à dénoncer ces informations, il les dénonce aussi au nom du ministère des droits humains. Sinon, le ministère des droits humains, il n'y en a que 10 conseillers. Les 10 conseillers ne seraient pas dans toute la République, ne seraient pas partout. Donc, le travail que vous faites participe aux droits humains, mais sauf que le ministère est là comme un paravent pour vous permettre à solutionner certaines questions qui peuvent encore l'être. La liberté de l'information. Un de monsieur venait de poser la question, a donné une partie de la réponse. C'est vrai. Aujourd'hui, on sait encore parler de la politique à travers certaines radios dans cette République, oui ou non? Moi, je suis souvent à certaines radios où des gens arrivent à dénoncer un certain nombre de choses. Parce que si vous ne le dites pas, vous découragez ces radios-là qui prennent des risques. Le droit de l'homme, dans leur ensemble, sont un idéal à atteindre. Et cet idéal à atteindre, on ne l'atteint pas le même jour, mais c'est un effort au quotidien. Les droits de l'homme, on peut tomber tout comme on peut se relever. Et je pense ici que nous devrions mettre plus l'accent du côté de ce qui marche pour encourager ce qu'ils font et aussi sur des choses qui ne marchent pas. Parlant de la loi sur les défenseurs des droits de l'homme, qu'est-ce que moi j'en pense ou qu'est-ce que le ministère en pense parce que je le représente? Notre ministère pouvait s'y opposer. Mais ne peut pas s'y opposer. Au contraire, a trouvé que c'était une bonne chose. Vu la thématique ou la matière de droits de l'homme, qui est une matière assez compliquée, assez politique, et d'autres acteurs politiques ne comprennent pas le rôle du défenseur judiciaire, pardon, du défenseur de droits de l'homme et même du journaliste. Et d'où il faut qu'il y ait une protection particulière. Et cette protection particulière-là, nous sommes d'accord qu'elle soit accompagné par une loi. C'est comme ça qu'on a dit, on a appuyé cela. Mais La loi, on l'appuie, mais vous comprenez, nous nous appuyons, nous ne sommes pas des députés. Il appartient maintenant aussi aux représentants du peuple de faire leur part du boulot, en leur qualité aussi de défenseurs des droits de l'homme, parce qu'ils le sont. La liberté d'association est garantie, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est par rapport à la loi que vous dites, la loi Tambwe-Mwamba? Effectivement, nous avons été approchés par rapport à des difficultés que contiendrait cette loi. C'est vrai, de nouveau, même dans les pays avancés, chaque fois qu'il y a des lois qui sont contraires ou qui touchent ou qui énervent un certain nombre de libertés, vous avez vu qu'il y a les gens, des associations, la société civile s'émeut pour ça, pour essayer de faire comprendre aux décideurs politiques que là, comme vous avez dit, il s'agit d'un recul et il faut mieux faire. Les ministères des droits humains seuls ne peuvent pas, parce que comme vous savez, une autre dimension qu'il faut avoir, c'est que cette loi vient du gouvernement. Et quand elle vient du gouvernement, il y a ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. Donc lors du conseil des ministres, madame a pu donner un certain nombre d'éléments pour améliorer la loi. Parce que quand vous êtes dans le conseil des ministres, le ministre va expliquer les tenants et les aboutissants d'une loi. Et à ce moment-là, chacun peut donner ce qu'il trouve bon ou mauvais dans la loi. Mais la mouture qui sort, quand le gouvernement présente maintenant ce projet de loi, vous, ministre, même si vous n'avez pas été d'accord, vous êtes obligé de suivre parce qu'il y a ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. Donc ne pensez pas que cette loi, madame la ministre, a accepté ou accepte toute son intégralité comme défenseur de droits de l'homme, non. Mais elle se retrouve qu'elle est dans cet ensemble que le gouvernement peut décider cela. Ça n'est pas perdu. C'est pour cette raison que je reviens de nouveau. Nous en avions, je crois, une fois discuté avec le maître Georges, dire, on se demande comment faire pour récupérer ou améliorer ce qui n'est pas dans cette loi là-bas. Pourquoi on ne vulgarise pas la Constitution? Je crois que dans les mots que j'ai donné de son Excellence, et derrière vous, vous avez la secrétaire, madame la secrétaire générale du ministère des droits humains. Dans son bureau, elle croule sur plus de 20 000 et quelques exemplaires de quatre vade-mecum sur les droits de l'homme qui ont été déjà imprimés mais qui attendent qu'on fasse la transcription. En fait, ce vade-mecum revient sur tout ce que la Constitution prévoit, parce que comme vous savez, la Constitution, elle donne des grandes lignes. Tandis que le vade-mecum essaie maintenant d'expliquer article par article en expliquant qu'est-ce qu'il faut comprendre par là. Est-ce que nous sommes satisfaits? Oui, nous sommes satisfaits dans l'ensemble de ce que nous faisons, parce que sinon on resterait à la maison. Mais par rapport à la liberté de manifestation, la liberté de manifestation est une des libertés importantes. Mais comme vous savez, cette liberté, elle n'est pas absolue. Les spécialistes des droits de l'homme, ils savent que les droits peuvent subir des restrictions. Et ces restrictions doivent être prévues par la loi et être concevables dans une société démocratique. Il y a la grande question, je me rappelle avec Maître Kapiamba, il se pose un problème ici. D'un côté, il y a la liberté de manifester. De l'autre côté, il y a l'obligation de maintenir l'ordre public. C'est le grand problème ici. Et le gouvernement a fait un choix qui consiste à privilégier l'ordre public. C'est pour un temps que ces manifestations publiques sont restreintes, mais avec une ouverture. Les gens peuvent manifester ou peuvent se réunir, parce que quelqu'un a parlé, je crois, de la liberté d'association. Les gens peuvent s'associer ou se réunir dans un certain lieu qui ne donne pas accès, par exemple, pas à vous qui vous manifestez, peut-être à d'autres personnes qui ne sont pas contents que vous fassiez votre travail et viendront vous embêter, ainsi de suite. Vous, comme membre associations, vous n'allez pas croiser les bras. C'est-à-dire que pour vous, du moment que vous constatez que c'est toujours une liberté qui vous est privée, vous devez continuer à voir dans quelle mesure demander cela. Par rapport à la manif dont vous parlez, les commandants de la police qui a autorisé cela n'aurait pas dû le faire. Il a failli. Parce que la restriction, elle concernait tout le monde. Vous demandez si on est encore un État démocratique ou si on est une dictature. De toute façon, vous savez, cette question n'est pas terrible. Elle n'est pas terrible, cette question. Pourquoi? Parce que, allez en France, on vous pose la même question. On va vous dire, nous sommes dans une dictature ici. On n'est pas dans une dictature. Parce que si on était dans une dictature, on ne se réunirait pas ici, monsieur. Nous ne sommes pas dans une dictature. Nous sommes dans une période de transition. Vous comprenez? Je m'explique. Nous sommes... Je vous explique ceci. Nous sommes. Nous sommes dans une période de transition dans ce qui concerne un certain nombre de droits. Vous comprenez? Vous comprenez que nous sommes aujourd'hui. La situation n'est pas normale. Ça, vous le savez, n'est-ce pas? C'est pour cette raison-là que un certain nombre de droits sont restreints. On ne les restreint pas si tout était normal. Ainsi donc, pour preuve, nous nous réunissons ici pour parler calmement. Il n'y a aucun policier avec nous ici. Et si nous étions dans... Non, mais peut-être vous n'avez jamais vécu dans les dictatures. Ok.
S'il vous plaît, mesdames, messieurs.
De toute manière, moi j'ai donné une preuve ici que nous sommes là et on sortira d'ici, il n'y aura aucun problème. Et toutes les questions que vous poserez ici, vous êtes libre de les poser et nous avons dit à certaines radios et à certaines télévisions, il y a des gens qui parlent et qui rentrent chez soi calmement. Et là, vous allez convenir avec moi que ce n'est pas la dictature. Cependant, il y a peut-être un certain nombre de dérapages dans les chefs de certaines personnes, mais cela ne peut pas être englobé à tout l'État congolais. Jusqu'ici, nous sommes un État démocratique, mais un État démocratique qui continue à se rechercher. Voilà. Je poursuis en disant que, par rapport au tableau, je reviens encore sur le tableau reluisant. Je crois que je venais de dire, moi, j'ai suivi moi-même la radio qui a été l'information à Kindu, qui a été incendié parce que quelqu'un aurait peut-être dit quelque chose par rapport au ministre de l'Intérieur. Pour des cas pareils, il faut faire procéder aux enquêtes pour savoir qui a fait quoi et pourquoi. Parce que vous ne pouvez pas, aujourd'hui par exemple là, c'est une information du matin, vous voulez que quelqu'un vous dise c'est tel, tel, tel. Moi je suis à Kinshasa, la ministre est à Kinshasa, mais c'est un fait. Il existe une police là-bas, il existe des associations de droits de l'homme qui sont sur place. Comme ils ont eu à le dire, à l'annoncer sur la radio, ils ne vont pas se limiter à annoncer. Ils vont pouvoir encore mener des enquêtes et donner les informations qui peuvent amener à ce que ces personnes-là soient attrayées devant la justice. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui constater déjà que non, condamner déjà que non, non, c'est quelqu'un qui les a envoyés. Moi, je ne pense pas. Alors, merci beaucoup.
Merci, monsieur le conseiller du ministre des droits humains, madame Sandra.
Merci pour la parole.
De manière brève, s'il vous plaît.
Oui, je réponds à madame Grasse, qui a posé la question de savoir pourquoi est-ce que notre ONG ne fait pas des actions pour aller au Parlement en vue de demander l'augmentation du budget. C'est un travail de longue haleine et je pense que ce n'est pas un travail d'une seule ONG. Et déjà, je peux vous dire que nous travaillons en synergie avec le REGED, l'Observatoire de la dépense publique, et puis avec la CONEPS, la Coalition nationale de l'éducation pour tous, pour essayer un peu de plaider la cause de l'éducation, d'avoir une éducation de qualité dans notre pays. Et pour avoir l'éducation de qualité dans notre pays, vous savez que, comme vous l'aviez dit, il faut qu'il y ait une augmentation du budget. Mais seulement le problème se pose au niveau de quel budget? Déjà, le budget global de l'État, bon, moi je qualifierais ces budgets-là de dérisoires. Parce que même si on accordait, je ne sais pas moi, 20% de ces budgets-là accordés à l'éducation, ça poserait toujours problème. Donc il faut vraiment militer pour que même le budget de l'État soit un budget vraiment conséquent. Et pour ça, il faut arrêter le coulage de recettes. Donc il faut vraiment militer. Et je prends la question de M. Dolly, qui a dit que j'étais clémente par rapport à la contribution des ménages, donc la contribution des ménages par rapport à l'éducation. Non, je n'ai pas été clémente. Et les statistiques que j'ai données ici, je ne les ai pas inventées. Je ne suis pas non plus mathématicienne, mais je sais par les statistiques données, par des études qui ont été menées, les ménages contribuent à 73%. Ils contribuent à 73% dans le secteur de l'éducation et les 23% reviennent à l'État parce que vous n'êtes pas sans ignorer que le problème des rémunérations des enseignants, c'est un problème général. Ce n'est pas seulement les enseignants qui ont une rémunération dérisoire. C'est pratiquement un problème général dans toute la République. Et je ne pense pas que j'ai été clémente. J'ai dit ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Et actuellement, on devrait encourager que le gouvernement prenne ses responsabilités. Parce que 23%, c'est rien. C'est vraiment rien. Donc, même le budget de l'éducation, c'est essentiellement le budget des rémunérations. Donc, il est qualifié de budget des rémunérations. Tout ce qui est accès, tout ce qui est gratuité, ça ne prend pas vraiment en compte tout cela.
Maître Georges.
Rapidement, s'agissant de la question, il y a une remarque pour dire qu'on a été aussi clément en parlant de la mise en œuvre. Non, nous devons être honnêtes. Reconnaître qu'en ce qui concerne le plan de la mise en œuvre proprement dite, c'est-à-dire l'adoption des textes internes qui doivent permettre à la RDC d'introduire tout ce qu'il y a comme engagement en matière des droits de l'homme, beaucoup de choses ont été faites. Et sur ce plan-là, nous sommes beaucoup en avance. Je peux vous donner un exemple dans le secteur de la justice. Vous savez que la RDC, nous sommes un des États en Afrique qui a un conseil supérieur de la magistrature constitué seulement des professionnels de la justice, c'est-à-dire des magistrats. Mais quand vous allez, par exemple, au Sénégal, qui aujourd'hui est compté parmi les pays les plus avancés en matière des droits de l'homme ou de démocratie, vous allez trouver que c'est le président de la République qui est président du conseil supérieur avec les ministres de la justice. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous, on a connu beaucoup d'avancées, surtout sur le plan des textes, mais c'est la pratique qui pose problème dans notre pays. Je voudrais aussi vous dire qu'en ce qui concerne même la Constitution, nous avons une Constitution qui est très avancée. Lorsque vous prenez l'article 64, vous ne trouverez pas cette disposition dans beaucoup de constitutions des autres pays africains. C'est un droit reconnu aux citoyens de résister à un gouvernement qui prend le pouvoir par la force ou bien qui l'exerce en violation de la Constitution. Donc il y a eu beaucoup d'avancées dues principalement aux travaux de la Conférence nationale qui ont inspiré beaucoup de libertés dans notre pays. Donc il faut toujours les mentionner, mais constater que sur le plan de la pratique, il se pose un problème. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui devait être fait? Comme Madame l'a mentionné ici, pour que les droits soient réellement droits, il faut d'abord que les citoyens intériorisent, les connaissent, soient en mesure de les revendiquer et de les défendre. Mais pour atteindre ce degré-là, il faut que les citoyens soient éduqués. Malheureusement, le gouvernement, moi j'aurais bien voulu entendre du ministre des droits humains, bon, il y a déjà un effort sur le vade-mecum, c'est déjà un effort, mais quel est l'effort qui a été fourni pour faire diffuser les droits de l'homme au niveau de l'enseignement? Je sais qu'à la dernière discussion avec eux, ils nous ont dit que c'est dans les projets. Peut-être l'année prochaine, ils vont faire introduire ça, parce qu'il faut faire inculquer les droits de l'homme déjà dans, au niveau de, des écoles maternelles, primaires et secondaires, pour que demain, la RDC, nous puissions avoir des citoyens, d'abord qui maîtrisent, qui connaissent leurs droits, qui savent les défendre, pour que nous puissions quitter le stade de la barbarie. La barbarie, c'est comme ce qu'on a, on a entendu, des gens qui se constituent en, en milice pour défendre leurs droits. On ne peut pas défendre ses droits en recourant à des moyens qui ne sont pas démocratiques. Ce n'est pas normal. Alors, sur le plan de l'effectivité, j'ai mentionné aussi qu'il manque un élément fondamental, c'est la justice. Parce que quand vous prenez la constitution de notre pays, l'article 149 est clair. Le pouvoir judiciaire est le garant de la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Ça veut dire que lorsque vous êtes, quelqu'un est arrêté et que vous courez devant la justice, il faut que la justice agisse pour sauver ces citoyens. Mais malheureusement, nous sommes dans une situation où la justice elle-même est totalement caporalisée. C'est-à-dire, elle est sous tutelle du pouvoir, pour pouvoir exécutif, il faut le dire, il faut qu'on se le dise. Nous avons beaucoup d'exemples. Ce qui fait que les magistrats ne sont pas, n'agissent pas avec indépendance. Ce n'est pas normal. Je vous donne un exemple à Kolwezi. Depuis le 30 novembre, on avait arrêté plus ou moins 253 personnes à l'issue de la manifestation. Nous avons fait notre monitoring. À Kolwezi, c'était 12 personnes. On a libéré au moins 6. Il en était resté 6 autres. 3 qui étaient arrêtés par les agents de sécurité de l'ANR ont été torturés. L'un d'eux a eu même une fracture à la jambe gauche. Transférés au parquet à la suite des démarches de leurs avocats, ils arrivent, les magistrats, les procureurs, au lieu d'envoyer ces gens-là au soin, a préféré les envoyer à la prison. Au seul motif qu'ils ne pouvaient pas statuer sur un dossier comme ça parce que venant des services de sécurité. Mais là, il y a un problème. Comment pouvons-nous défendre les droits des gens si nous n'avons pas de justice? Les magistrats, vous avez déjà un salaire qui peut vous permettre de rendre un bon travail à vos concitoyens, mais vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce que vous voulez être toujours sous la domination des autres pouvoirs et justifier ainsi tout ce qu'ils font comme les pratiques de corruption. Nous avons aujourd'hui, parce que notre ami voulait qu'on donne quand même des statistiques, vous savez qu'il était prévu qu'on installe 175 tribunaux de paix à travers tout notre pays, dans chaque territoire, chaque chef-lieu de paix. Mais aujourd'hui, nous sommes à 67, tout simplement, pour toute la République. Sur les 67-là, il n'y a que 48 qui fonctionnent parce que les autres se retrouvent soit avec un seul magistrat, ou soit avec deux, ça ne fonctionne pas, ou ils sont là, mais il n'y a pas de bâtiment. Donc, il y a un sérieux problème qui appelle aussi l'investissement. Et là, l'État est incapable. On ne peut pas défendre les droits de l'homme sans moyens. Il n'est pas normal, avec la constitution que nous avons aujourd'hui, qui a déjà prévu l'article 26, qui dit que la liberté de manifestation est garantie à tous. Et la même disposition ajoute que lorsque la manifestation est organisée, le pouvoir a l'obligation de l'encadrer. Donc, mais ajoute aussi pour dire que les organisateurs ont l'obligation d'informer l'autorité. Donc, il y a des obligations pour les uns et les autres. Lorsque les gens informent l'autorité, mais l'autorité a l'obligation de l'encadrer, mais pas recourir aux faux fuyants au motif que nous sommes dans un contexte préélectoral, de ceci, cela. Il ne faudrait pas que les gens s'expriment. Non. Même quand vous prenez les sit-in simples de 10-20 personnes membres de l'UCHA, par exemple, même de 5 personnes, mais on envoie une quarantaine d'éléments de la police pour réprimer. Non, mais ça dépasse tout entendement. Les jeunes qui viennent avec des affiches pour dire tout simplement « Nous sommes contre la décision invalidant les passeports semi-biométriques. » Ils se mettent là, ils font rien. On envoie une quarantaine de policiers. Et on utilise les moyens de l'État. Parce qu'on met du carburant. Mais c'est du gaspillage. On utilise les gaz lacrymogènes qu'on achète trop cher contre une dizaine de jeunes du contribuable. Au lieu de prendre cet argent, contribuer à l'amélioration de l'éducation. Non, on continue à acheter. Non, nous ne sommes pas d'accord de dire que les droits de l'homme doivent être considérés comme un idéal. Par contre, c'est le combat pour les droits de l'homme qui doit être considéré comme un idéal pour nous tous. C'est-à-dire que vous vous engagez sans attendre un paiement, mais vous avez une conviction de contribuer à l'émergence d'une valeur qui est noble dans la société. Mais les droits de l'homme en tant que tel doivent être considérés comme une valeur sans laquelle dans la société nous ne pouvons pas vivre.
Voilà, chers participants, merci à vous d'être venus, d'avoir répondu à cette invitation. 10 décembre de chaque année, l'humanité commémore la Journée internationale des droits de l'homme, une journée consacrée à la célébration du souvenir de l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU du texte et en même temps de la proclamation de cette déclaration universelle. Internews qui a produit cette émission vous remercie. Une émission qui a été financée par la coopération suisse avec un supplément d'aide de l'USAID. Nous espérons vous retrouver très prochainement dans le cadre de nos forums d'expression. Merci et au revoir.